émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire. Ce matin, comme plusieurs fois encore pendant cette année politique, nous continuons notre série sur les imaginaires historiques de nos femmes et de nos hommes politiques. Pour recommencer cette série sur les imaginaires de nos politiques que nous avions terminé la saison dernière avec l'entretien avec le président de la République François Hollande, nous recevons ce matin l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Avec lui, nous allons parler de la nécessité ou non d'écrire un roman national ou un récit national, du labeur difficile, dit-il, des historiens, d'histoire mondialisée, de diplomatie et de confrontation des histoires nationales, ainsi que du génocide rwandais, un entretien que nous avons enregistré avec Dominique de Villepin la semaine dernière. Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté, à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, Mémoire de paix pour temps de guerre, publié chez Grasset, notre invitation à débattre d'histoire et d'imaginaire historique. Vous en parlez beaucoup dans cet ouvrage, comme l'ont fait avant vous, donc François Hollande, Alain Juppé, Michaël Jean, Marisol Touraine et bien d'autres. On le sait, vous aimez l'histoire et pas seulement celle de la Révolution et de l'Empire, sur laquelle vous avez écrit, mais toute l'histoire en ce qu'elle aide à comprendre et à analyser les emballements et les crises que nous traversons. Vous le montrez d'ailleurs dans votre dernier ouvrage en rappelant à chaque chapitre les frustrations venant du passé de telle ou telle nation, les obsessions de certains pays dans leur rapport à l'histoire. Et vous cherchez dans ce livre à n'oublier personne, ni l'Asie, ni l'Afrique, ni l'Europe, ni les Amériques. Et vous tentez d'expliquer d'où soufflent les vents de l'histoire. Que dites-vous, vous avez entendu siffler très tôt à vos oreilles. Alors, on commence toujours ces entretiens autour de l'histoire par un rappel de votre formation de jeune garçon. Donc, lorsque vous aviez une dizaine d'années, qu'est-ce que vous lisiez, qu'est-ce que vous aimiez dans l'histoire et quels étaient les personnages qui vous marquaient, Dominique de Villepin ?
Je suis né au Maroc, donc très marqué par la période qui s'initiait de la décolonisation. Mes premiers souvenirs, c'est la garde royale marocaine défilant dans Rabat. Et puis après, la fin de mon enfance et mon adolescence en Amérique latine, où la vie était rythmée par les coups d'État qui régulièrement intervenaient. Donc c'est une histoire tragique qui m'intéressait, celle de la Révolution, celle de l'Empire, les grands épisodes de l'histoire. Ma famille aimait l'histoire et aimait nous donner des livres d'histoire. Donc c'était un peu la revisitation des hommes illustres, tous ceux qui avaient marqué les grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Et j'aimais à plonger dans ces livres et à chercher des modèles qui pouvaient inspirer dans le temps d'aujourd'hui.
Alors, lorsque nous avons interrogé d'autres personnalités politiques que vous, Dominique de Villepin, nous avons remarqué qu'il y avait deux types d'imaginaires. Des imaginaires qui étaient marqués profondément par l'enseignement national, mettons l'histoire nationale, l'histoire de France, et puis ceux et celles qui, comme vous, avaient grandi ailleurs qu'en France et qui donc matinaient l'enseignement de l'histoire de la nation avec d'autres références. Est-ce que c'est votre cas, en l'occurrence, Dominique de Villepin ?
Oui, c'est mon cas, même si, étant issu d'une famille marquée par l'engagement militaire, l'histoire nationale est extrêmement présente et une histoire qui est beaucoup d'ailleurs celle des guerres, du fait de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents. La guerre de 70 est très présente, bien sûr la guerre de 14, mes deux grands-pères s'y étaient engagés, les deux frères de mes deux grands-pères sont morts dans cette guerre, dans les tranchées, et toutes les guerres coloniales. Puisqu'il y avait toujours un membre de la famille qui soit s'y était engagé, soit y était resté, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. Donc c'est un vrai imaginaire marqué par, les hauts faits ou les épreuves de la vie nationale, mais aussi, bien sûr, l'expérience africaine, l'expérience sud-américaine, les guerres de libération, à l'heure où on enterre Fidel Castro. Mm-hmm. J'écoutais enfant, à 7-8 ans, les discours fleuves de Fidel Castro sur mon transistor. Et donc cet imaginaire des grandes luttes coloniales, des grandes figures, des guerres de libération africaines ou sud-américaines ou asiatiques m'ont profondément marqué.
Et à l'heure où un candidat donc à la présidence de la République, à savoir François Fillon, demande de rétablir un enseignement d'histoire nationale en demandant, c'est ce qu'il propose à trois académiciens, de réfléchir à la question de l'histoire nationale. Vous pensez qu'il y a tant de dangers autour de l'apprentissage justement de cette histoire nationale qu'il faille refaire un récit ou un roman, disent certains, de la nation, Dominique de Villepin?
Je suis partagé sur cette question, parce que à la fois j'estime qu'il faut connaître les grandes dates de l'histoire de France, et qu'il faut pouvoir se repérer par rapport à cette histoire, connaître les grandes questions qui ont agité notre destin national. Et en même temps, je suis réservé sur l'idée de vouloir par trop lisser, faire joli avec cette histoire, au point de vouloir en écrire le roman. Parce que il ne faut pas tordre la réalité des faits. Il ne faut pas enjoliver les choses au point de risquer de perdre cette perspective. Je fais partie de ceux qui, par exemple, attachent beaucoup d'importance à toute la colonisation et la décolonisation. Et je reste convaincu, pour avoir beaucoup voyagé, que c'est un élément qui est très présent dans notre vie nationale, qu'on le veuille ou non. Et donc, je crois qu'il faut être capable de se coltiner avec la rugueuse réalité. C'est pas forcément agréable parler d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés en Afrique. C'est pas forcément quelque chose de facile. C'est pas forcément quelque chose qui grandit l'idée qu'on se fait de notre pays. Mais il faut être capable de regarder cette réalité en face avec ses exigences et avec sa diversité.
Mais pourquoi pensez-vous, Dominique de Villepin, que beaucoup dans votre camp politique imaginent que reconnaître des erreurs ou des exactions commises par telle ou telle partie de l'armée française pendant les faits de colonisation, par exemple, reviendrait à chaque fois à faire repentance, puisque c'est souvent le terme que l'on emploie quand on parle de cela, Dominique de Villepin?
Parce que chacun a tendance à considérer qu'il s'agit là d'une agression contre la mémoire nationale. Une agression contre l'idée que l'on se fait du rôle qui a été le nôtre à travers cette histoire. Je crois au contraire à l'importance des questions en matière historique. Et personnellement, dans les différents travaux dans lesquels je me suis engagé, j'ai toujours privilégié les questions. Et les questions permettent après d'apporter un certain nombre de réponses différentes qui vont dans un sens ou dans un autre. Mais il y a, je crois, un certain honneur à être capable de se poser toutes les questions. Quand on regarde l'histoire de la conquête de l'Algérie, quand on regarde l'engagement français en Afrique, en Indochine, il y a des épisodes qui ne sont pas glorieux. Et il est bon de pouvoir regarder sous les différentes facettes ces épisodes de façon à comprendre par quel mécanisme. Je crois qu'il est extrêmement important de retenir dans l'histoire un certain nombre de lois, un certain nombre de mouvements, un certain nombre de forces qui nous aident aujourd'hui à mieux comprendre le présent. Si on veut éviter des erreurs aujourd'hui, il est important de comprendre comment la peur peut agir puissamment et comment les engrenages de la peur peuvent conduire à la guerre, à des malentendus, à des incompréhensions. Donc je crois que c'est très important d'analyser tous les ressorts historiques et de ne pas seulement retenir les hauts faits. Je prends un exemple qui m'a beaucoup touché. J'étais Premier ministre en 2005. Au moment de la commémoration de la bataille d'Austerlitz, et d'aucuns se sont émus, et je les comprends, hein, je suis moi-même passionné par l'histoire impériale, qu'on n'ait pas fait davantage. La ministre de la Défense a commémoré pour sa part cet événement. Ils ont oublié deux choses, et ce n'est pas une excuse que j'avance là. La première, c'est que en décembre 2005, nous sortions d'un mois d'embrasement des banlieues. Donc d'une crise extrêmement profonde qui rendait la commémoration d'une victoire militaire quelque peu singulière. C'est quelque chose en plus, j'étais depuis peu de temps à Matignon, difficile. Et commémorer une victoire, c'est pouvoir aussi commémorer un mouvement historique, c'est-à-dire comment, depuis son arrivée, depuis 18 Brumaire, Bonaparte puis Napoléon avaient réussi à aborder l'histoire française, l'histoire nationale, l'histoire européenne, comment il avait posé les fondements à travers le consulat puis l'Empire. Donc c'est être capable de faire de la pédagogie. Fêter isolément une victoire militaire ou une défaite militaire, c'est extraordinairement difficile. Et donc, ça implique un vrai travail de fond. Je ne crois pas donc à ce type de commémoration ponctuelle. Et d'ailleurs, le fait de tomber dans la commémoration systématique sans pouvoir voir tous les aspects, les arrière-fonds, tous les éléments d'un événement historique, ça me paraît, dans le fond, aller souvent dans le sens du contresens, du malentendu, beaucoup plus que de rendre service à la mémoire nationale. Donc je crois qu'il y a une exigence, il y a un travail de fond, et j'en viens à ce qui, pour moi, est très important et parfois oublié quand on parle de récit national. L'histoire, c'est un labeur. C'est un labeur ingrat. Et le travail des historiens, il faut le prendre pour ce qu'il est. Aller chercher des faits, aller chercher tous les éléments qui peuvent permettre à un moment donné d'avoir comprendre ces faits. Prenons l'histoire du climat d'Emmanuel Laura de la Durie. Il est allé chercher tous les débuts des premières vendanges au XVIe, XVIIe siècle pour essayer de comprendre comment le climat avait évolué. C'est donc un travail extrêmement difficile. Il faut vraiment comprendre que derrière un livre d'histoire, il y a des heures, des années d'études. Quelqu'un comme Timothy Tackett, quand il se penche sur les débuts de la Révolution française, quand il analyse la Convention, eh bien, il analyse le cas de chaque conventionnel. Il étudie de façon sérielle la situation de chaque conventionnel. Pareil pour la Constitution civile du clergé. Aller voir les déclarations, le parcours de chaque prêtre jureur. Donc, on ne joue pas avec ça. Et on ne peut pas prédire ce que donnera un travail historique, et il est constamment à remettre sur la table. Donc on n'est pas devant quelque chose qui fait joli, on n'est pas devant quelque chose qui est gentil, on est devant quelque chose qui est parfois cruel, difficile, et avec lequel il faut être capable de se coltiner.
Et puis, tout de même, Dominique de Villepin, souvent quand on veut mettre l'histoire par la porte, elle revient par la fenêtre. On voit par exemple comment, ça a d'ailleurs été le cas pendant que vous étiez Premier ministre et puis un peu après, comment la question de l'esclavage est devenue dans notre société quelque chose de central, alors que c'était périphérique, que beaucoup de nos concitoyens considéraient que 1848 c'était une porte close, et que quand on vivait aux Antilles en particulier, mais aussi en Guyane ou ailleurs dans des territoires et départements d'outre-mer, eh bien on considérait que c'était encore présent aujourd'hui, et lors des grandes grèves en particulier aux Antilles il y a quelques années, les ministres qui devaient négocier, les secrétaires d'État à l'outre-mer, ont été surpris de voir surgir cette question de l'esclavage en plein milieu de leurs discussions et de négociations qui portaient sur le prix des denrées alimentaires, en particulier dans ces mêmes Antilles. Et donc là, on voit que la politique peut de temps en temps voir surgir sur son terrain des questions historiques qui ne sont pas immédiatement attendues, Dominique de Villepin.
Vous avez 100 fois raison. Je connais bien les Antilles. J'ai souvent été à la Martinique. Parmi mes premiers souvenirs d'enfance, c'est mes premiers voyages à Haïti. Oui, l'esclavage, c'est une donnée incontournable de l'identité de l'expérience insulaire. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui nous est revenu, qu'on pouvait apprécier et appréhender par des travaux historiques depuis longtemps, qui a été renouvelé par des grandes figures comme Édouard Glissant, et c'est pour cela que j'avais demandé à Édouard Glissant de réfléchir sur cette question de l'esclavage, pour essayer de nous guider. Nous avons besoin, par rapport à ces blessures du passé, qui restent des blessures souvent vivantes, on a besoin d'être guidé par une réflexion, par un travail historique, qui seul permet de franchir un cap, de tourner une page. Et je reste convaincu qu'au cœur de notre vie diplomatique, de notre politique internationale, la question de nos relations avec l'Algérie n'est pas toujours arrivée à maturité. Elle n'est pas encore arrivée à maturité. Et qu'il y a un gros travail de fond. Et de ce point de vue-là, la mobilisation des historiens, des intellectuels est extrêmement utile. C'est pas remuer le fer dans la plaie. C'est nous aider à mieux comprendre comment, à un moment donné, nous qui avons eu un destin destin partagé, pouvons, et selon quelles règles, pouvons nous retrouver pour avancer ensemble dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, mais ça c'est compliqué parce que quand on est un homme politique, on trouve en face de toi, quand on danse le tango, il faut être deux pour danser le tango, un président algérien qui parfois renvoie, par exemple, la question des harkis dans le camp français, qui renvoie même parfois, ou des gens qui sont autour de lui, la France a une notion de génocide, ce qui est quand même très difficile à assumer pour les gouvernants français. Et donc, il faut pouvoir discuter de cette histoire.
Vous avez raison, mais il faut l'accepter. Il y a des trous dans notre histoire. Moi, j'ai vécu très très personnellement et très fortement, puisque ma famille avait habité en Algérie et au Maroc, le retour des Français d'Algérie, l'arrivée des harkis, et c'est vrai que bien peu de choses avaient été prévues. La politique avait fait l'impasse, il y avait un angle mort, et Dieu sait si j'ai du respect et de l'admiration pour le général de Gaulle, mais de ce point de vue-là, cette arrivée des Français d'Algérie et des harkis a été une surprise. Et j'ai souvenir encore de ces camps dans le sud de la France qui portent encore aujourd'hui la marque de cette impréparation. Donc, il y a constamment à rouvrir les livres d'histoire, à les revisiter pour comprendre comment certains membres de notre communauté ont été marqués par un regard, par un traitement, et aujourd'hui encore, on parle d'aucun d'assimilation, d'intégration, mais la question du regard que nous portons les uns sur les autres pour ceux qui viennent d'origines différentes est parfois très douloureuse et nous nous en rendons pas compte. Nous écorchons les uns les autres par méconnaissance des parcours, par ignorance des réalités. Oui, il y a des dures réalités sociales. Moi, j'ai été confronté à la crise des banlieues. J'ai voulu créer le CPE à cause de la crise des banlieues, pour donner une chance à certains Français qui n'en avaient pas, qui, issus de parcours compliqués et difficiles, restaient en marge de la vie nationale. C'est une chose que de déclarer les lois universelles de la République, de parler de fraternité, d'égalité. Mais la réalité, c'est que tous ces grands principes, toutes ces grandes valeurs, elles sont pas au rendez-vous de la vie quotidienne.
Alors, quand on fait profession de diplomate, comme vous l'avez longtemps été, en l'occurrence Dominique de Villepin, on croise aussi d'autres visions de l'histoire de la part de ceux qui sont vos partenaires de négociation en particulier. Vous avez été donc très souvent, par votre parcours professionnel, dans des postes d'ambassade, que ce soit aux États-Unis ou ensuite dans des secrétariats généraux, au Quai d'Orsay, puis ensuite ministre et Premier ministre. En l'occurrence, quand vous croisez d'autres regards sur notre histoire, que disent-ils justement ces interlocuteurs que vous croisez, qu'ils soient Vladimir Poutine, la Russie aujourd'hui, que ce soit des présidents américains, que disent-ils de la France et de son histoire en regard de la leur ?
Il y a une expérience française qui est reconnue et qui attire, séduit ou au contraire crée un rejet selon les cas. Mais chacun voit bien qu'à travers les Lumières, à travers la Révolution, nous sommes porteurs d'une certaine vision de l'homme, d'une certaine vision du monde qui s'oppose à une autre tradition qui est parfois d'ailleurs contenu dans notre propre histoire. Nous avons à la fois la tradition révolutionnaire et celle des Lumières, nous avons en même temps la tradition...
On a Bonaparte, général de la Révolution.
Oui, et on a la contre-révolution, on a les Bonal, les Joseph de Maistre qui rejoignent les Houston Chamberlain, les Herder et beaucoup d'autres. Donc on a cette vision identitariste qui... explique à elle, enfin ces deux histoires expliquent l'histoire de l'Europe.
Et je rappelle que vous n'avez pas cité Napoléon comme étant une de ces personnalités qui ont donc une tentation autoritaire en l'occurrence.
Non, parce que je parle surtout des philosophes, de ceux qui ont engagé une réflexion. Mais effectivement, Napoléon a à la fois porté la révolution et en même temps suscité des réactions extrêmement profondes en Espagne, en Russie et ailleurs.
Mais donc et aux Antilles avec le rétablissement.
Bien sûr. Mais il y a donc un grand intérêt, et il y a une sorte d'aimantation qu'exerce notre histoire. Elle ne laisse personne indifférent. Mais si nous voulons faire notre travail, et évidemment encore plus pour un diplomate, il y a à connaître la mémoire des autres. Il y a à connaître le regard des autres. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé. On ne peut pas s'engager dans une région, s'engager vis-à-vis d'un pays, sans essayer de s'imprégner de son regard. Et il y a mille façons de le faire. Connaître son histoire, connaître les images qui lui sont fournies et qui nourrissent son imaginaire. Par exemple, regarder le journal télévisé que d'aucuns regardent en Irak, en Syrie et ailleurs. On a besoin de comprendre comment ces gens-là voient le monde. Et ce qui m'avait beaucoup frappé dans la confrontation que nous avons eue avec les Américains lors de la crise irakienne, c'est à quel point ils étaient incapables de se mettre à la place de l'autre, de comprendre comment une intervention militaire en Irak allait déclencher en retour toute une série de séismes parce que cela allait à l'encontre à la fois des réalités, mais surtout des identités et des sensibilités qui sont celles du Moyen-Orient. Ignorance de la question religieuse, ignorance de la question politique qui explique que les Américains ont détruit les bases de la société et de l'État irakien. Tout cela, c'est le fait de l'ignorance et de l'idéologie. Parce qu'il y avait la conviction qu'on pouvait nourrir un cercle vertueux en éliminant et en faisant table rase le fameux changement de régime. Et si je m'oppose aujourd'hui si fortement aux interventions militaires tous azimuts, qui sont malheureusement aujourd'hui,
c'est d'ailleurs au cœur de votre
y compris portées par la France, c'est parce que je suis frappé de voir à quel point on méconnaît le fait que derrière cette politique de changement de régime, il y a souvent un travail de sape et une méconnaissance des sociétés. Et à vouloir frapper les sociétés aussi directement, sans prendre en compte les conséquences, leur sensibilité, le besoin qu'elles ont de reconnaissance et de respect, eh bien on déstabilise des régions entières. C'est ce que nous avons fait en Libye, c'est ce que je crains que nous fassions aussi dans le Sahel. Donc il y a besoin de beaucoup de respect et de beaucoup de connaissance de la culture des autres.
Vous dites beaucoup de bien des historiens, en l'occurrence Dominique de Villepin, qui vous aident à penser le monde. Mais c'est vrai que, par exemple, si on suit un grand historien du Maghreb comme Pierre Vermeeren, qui, dans un livre qui a fait un peu de bruit dans le milieu, qui s'appelait « Misère de l'historiographie du Maghreb en France », expliquait que la France n'avait plus la grande école qu'elle avait eu au moment de la colonisation et même des décolonisations, de compréhension de ce qu'était la culture et le monde arabe. On se dit qu'effectivement, on n'est pas très loin de certains de ceux dont vous disiez tout à l'heure, Dominique de Villepin, qui ne comprenaient pas cet espace géographique. Est-ce qu'il n'y a pas une perte justement de notre connaissance, compréhension, quand Germaine Tillion, anthropologue, connaissait si bien l'Algérie, que Pierre Bourdieu, sociologue, connaissait très bien l'Algérie pour avoir travaillé sur ce terrain, que des dizaines et des dizaines d'anthropologues, d'historiens, de géographes avaient parcouru ces espaces géographiques dans le cadre de la colonisation, eh bien, il y avait peut-être une meilleure connaissance de ces sociétés avec lesquelles nous devons discuter, Dominique de Villepin.
Oui, vous avez 100 fois raison, et cette perte de connaissance, elle est vraie sur le plan historique, et sa traduction est immédiate sur le plan diplomatique. Nous avions l'école de la France d'outre-mer et qui a formé des administrateurs et des générations d'administrateurs.
Dont Guy Georgie, qui a été votre maître.
Absolument. Ouais. Guy Georgie, Jean Osseil, Christian de la Rochère, combien d'autres, qui ont beaucoup compté dans non seulement l'attrait que j'ai pu avoir pour l'Afrique, mais la compréhension et l'acquisition d'un certain nombre de clés, de réflexes, de la constitution d'un certain nombre d'outils. Et je pense que ce sont ces repères aujourd'hui qui nous font défaut quand on veut approcher ces sociétés, approcher ces cultures. J'en prends un exemple. Nous avons méconnu tout au long des dernières années l'importance des États dans ces régions. On a voulu croire que on pouvait rebâtir une politique, rebâtir un gouvernement, en faisant l'impasse sur les États de ces régions. On voit bien que la multiplication des États faillis au Moyen-Orient comme en Afrique, aujourd'hui, est un véritable drame. Comment reconstruire sans repartir d'embryons d'État et nous mettons beaucoup d'énergie pour défendre notre politique militaire, là où, à mon sens, il faudrait mettre beaucoup plus d'énergie pour constituer des sociétés et constituer des États forts, capables, à partir de là, de servir leur population.
Oui, mais ces chercheurs dont on parlait tout à l'heure étaient marqués par un regard. Vous parliez tout à l'heure de la question du regard, qui était le regard colonial. Comment connaître ces sociétés, connaître ces pays sans recréer une sorte de regard colonial? Parce que c'est aussi une des difficultés que l'on peut avoir, effectivement, de tenter de renouer avec ce fil de connaissance, par exemple, du Maghreb ou du monde arabe, mais évidemment sans penser qu'on a changé d'époque et que ces pays sont des pays qui sont indépendants d'une autre et non plus sous notre coupe, en l'occurrence.
Et c'est là où nous avons besoin en permanence de nous rappeler que l'histoire doit être faite de débats. Et c'est là où il y a, non pas une école historique, mais des écoles historiques. Quelqu'un comme Achille Mbembe, quelqu'un comme Benjamin Stora nous aide à avoir le regard qui, justement, nous fait prendre conscience que derrière certains réflexes, derrière certains regards, il y a l'empreinte encore de l'expérience coloniale.
Dans l'obsession du Proche-Orient que nous avons et du monde arabe tel que nous le voyons aujourd'hui, y a-t-il encore des restes, justement, de ce regard colonial, par exemple de ce terrorisme du FLN dans les années, c'est comme ça qu'on le qualifiait, du FLN dans les années de la libération de l'Algérie, dans ce qu'on regarde aujourd'hui de ces terroristes que nous avons donc et qui commettent des attentats sur le sol français.
Bien sûr, et il y a quelque chose de ce point de vue de grave, c'est que cela nous aveugle dans la compréhension du fait terroriste. Et donc les réactions qui sont les nôtres, les politiques qui sont les nôtres, vont parfois à l'inverse de ce que nous souhaiterions, c'est-à-dire qu'elles mettent de l'huile sur le feu. Et c'est là où j'estime que le débat doit constamment être approfondi. Nous nous trompons de réponse, en l'occurrence en multipliant les interventions militaires et en croyant que c'est comme cela que nous réduirons le terrorisme. On le voit en Syrie, on le voit en Irak, là où les démocraties qui ont pourtant une espérance trop longue, qui avaient appris que c'était la politique d'abord et éventuellement le militaire à l'appui du politique, oublient de faire de la politique. Et il y a quelque chose de fascinant qui s'est passé sur le plan historique, c'est l'inversion qui s'est produite. La chute du mur de 89 et l'effondrement de l'Union soviétique avaient donné l'avantage aux démocraties libérales. C'était le triomphe de cette démocratie libérale.
C'était la fin de l'histoire.
C'était la fin de l'histoire qui devait gagner toute la planète. Et qu'est-ce que nous constatons au fil des années? C'est que ce sont les régimes autoritaires, ou les démocraties illibérales en Europe de l'Est,
exactement,
qui sont en train de prendre l'avantage et qui essaiment. Regardez comment la Moldavie
Orban
aujourd'hui se dote d'un président pro-russe, la Bulgarie, certains pays baltes, comment
la Pologne.
En Asie, la Pologne, comment certains pays en Asie subissent la fraction de la Chine. C'est le cas de pays comme les Philippines ou la Malaisie. Il y a donc une évolution profonde dans le rapport de force. Et il y a un retour de la compétition des systèmes parce que nous avons oublié, nous, les démocraties libérales, que notre première mission, c'était de faire de la politique. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons valoir les armes au Moyen-Orient et nous n'avons pas une idée à leur proposer. Et c'est pour cela que je suis attristé de voir que nous n'avons pas de projet d'architecture de sécurité pour le Moyen-Orient, compte tenu de l'espérance qui est la nôtre avec Helsinki, la CSCE de 1975. Aucun projet économique à faire valoir à des pays comme l'Arabie Saoudite, nos alliés aux monarchies du Golfe, ou à un pays comme l'Iran, pour créer de l'unité dans cette région, alors que nous savons que c'est par défaut d'expérience régionale que ces pays se suicident. Il y a un manque de proposition, d'invention, d'imagination qui est un manque de profondeur historique.
Oui, mais justement, d'autres ont la profondeur historique pour nous, en l'occurrence. Quand Viktor Orban salue la victoire de Donald Trump en disant « C'est nous qui maintenant sommes les moteurs de la nouvelle Europe, d'une certaine façon ». C'est ainsi que le résume Jacques Krupnik, par exemple, grand connaisseur de cette région du monde. Eh bien, on se dit, effectivement, le modèle n'était pas le bon. En tout cas, il n'a pas fonctionné pour pouvoir intégrer ce qu'on appelait, dans les années 1970, l'autre Europe, Dominique de Villepin.
Oui, ce modèle, il s'est heurté à un certain nombre de barrières, dont l'évolution de la mondialisation, qui a été mal anticipée, avec ses difficultés, avec ces trop nombreuses populations qui ont été laissées de côté. Il y a également la maladie qui ronge aujourd'hui les démocraties, qui explique en grande partie les populismes, c'est la peur. Peur de l'autre, peur des réfugiés, peur de tout ce qui est différent, peur de se voir confisquer le peu que l'on a. Aujourd'hui, nos démocraties souffrent de cette incapacité-là. Nous sommes loin de l'époque coloniale où on portait nos valeurs au-delà des frontières. Aujourd'hui, on a tellement peur qu'on veut faire des murs, des barrières un peu partout, et on va faire la guerre au-delà de nos frontières pour essayer de se protéger. Donc, nous ne sommes plus porteurs de nos valeurs. Nous ne sommes plus porteurs d'une certaine idée démocratique. Nous ne sommes plus soucieux de partager avec d'autres. Au contraire, l'idée, c'est bien de se protéger des autres.
On voit bien, Dominique de Villepin, que quand on oublie l'histoire de notre côté, ceux qui sont de l'autre côté s'en souviennent. Quand un des premiers gestes de Daesh, c'est de supprimer la frontière entre Irak et Syrie au nom du refus des accords Sykes-Picot, je pense que peu de nos compatriotes savaient à ce moment-là, il y a 2 ans, ce qu'étaient les accords Sykes-Picot. Cette année, nous en célébrons le centenaire, mais c'est un peu différent. Quand la Grèce parle de l'Allemagne en se souvenant d'Othon de Bavière, mais aussi du régime des Allemands et des nazis pendant la guerre en Grèce, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand la Chine se souvient très bien des guerres de l'opium, ou encore quand la Turquie, par son président, veut ressusciter l'Empire ottoman, ces questions historiques sont constamment présentes dans la diplomatie mondiale.
Vous avez raison. Vous évoquez l'État islamique. C'est vrai qu'aujourd'hui, au cœur du projet terroriste, il y a cette idée de retrouver une image glorieuse de l'islam, du premier islam.
Du califat.
Du califat, et qui est évidemment très loin de la réalité d'aujourd'hui. Et donc, il y a ce sentiment d'humiliation. Et ce qui est frappant, c'est la montée des passions sur la scène mondiale. Je parlais de la peur, mais c'est vrai également l'humiliation qui est extrêmement puissante. Et ce ressort de l'humiliation, humiliation russe avec la chute de l'Union soviétique, humiliation chinoise à travers l'expérience du 19e siècle et des guerres du 20e, tout cela a laissé des traces profondes. Et on ne peut pas mener une politique, on ne peut pas mener une diplomatie sans prendre en compte cette réalité-là. Si on fait ce travail, on peut alors trouver les bases d'un accord, les bases d'une discussion, les bases d'un dialogue. Mais ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, ne peut pas être contourné. On peut contourner l'obstacle, mais c'est un vrai travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Si nous nous contentons, nous aussi, de façon agressive vis-à-vis des autres, de pointer du doigt, de sanctionner, d'exclure, de refuser de parler aux uns et aux autres, évidemment, le monde ira un peu plus vers le risque de guerre.
Alors, vous êtes à la tête d'un cabinet d'avocats désormais, mais on sent chez vous tout le temps, et dans ce livre « Mémoire de paix pour temps de guerre », celui qui n'a pas oublié le Quai d'Orsay, en l'occurrence. Quand on vous lit, on voit que vous tressez des couronnes à ceux qui vous ont accompagné, soit qu'ils ont été vos mentors à ce Quai d'Orsay, soit qu'ils vous ont accompagné dans votre action diplomatique. Et vous dites, c'est un ministère qui, avec la défense, est un ministère qui aime les idées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Le diplomate est quelqu'un qui ne peut pas aborder les problèmes du monde, les crises du monde, la relation avec les autres, sans s'intéresser à ce qui a précédé. Donc l'histoire et la géographie sont au cœur du métier diplomatique. C'est l'autre qui en est le centre. Et quand notre pays, ce qui arrive, se replie sur lui-même, on sent immédiatement le Quai d'Orsay faiblir, on sent une crise à l'intérieur même du Quai d'Orsay. Donc le Quai d'Orsay, il a besoin qu'on lui dise « allez, essaimer, rencontrer, partager », c'est ça la vocation du diplomate, aller à la rencontre de l'autre. Et aujourd'hui, où le ministère de la Défense a pris le pas sur le Quai d'Orsay, l'hôtel de Brienne sur le Quai d'Orsay, on voit bien, les diplomates sont profondément gênés.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Comment peut-on mesurer justement l'idée que le ministère de la Défense ait pris le pas sur le ministère des Affaires étrangères ?
Les grandes crises du monde peuvent soit être abordées politiquement et diplomatiquement, soit au contraire, c'est d'abord les armées qui sont sollicitées pour traiter des crises. Et à partir du moment où notre pays s'engage de plus en plus sur le terrain militaire, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Libye, on le voit aujourd'hui au Proche-Orient, eh bien la diplomatie devient seconde. par exemple, interroger n'importe quel observateur de la crise syrienne ou de la crise irakienne, quel projet avons-nous une fois Mossoul libéré ou une fois Raqqa libéré, quelles seraient les bases d'une esquisse de solution diplomatique, quelle initiative pouvons-nous nouer pour faciliter le dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors que nous avons des bonnes relations avec l'un et avec l'autre, et alors que nous vendons des armes à l'ensemble des pays de cette région. Personne n'en a aucune idée. C'est-à-dire que la réflexion politique et la réflexion diplomatique sont éclipsées par l'action militaire. Et ça, c'est un signe d'affaiblissement profond de la France dans le monde. De ce point de vue, le pays indépendant qui était le nôtre avant le retour dans l'OTAN a perdu beaucoup de plumes avec ce retour de l'OTAN parce qu'il y avait une exception française, il y avait une vocation de la France à être présente sur toutes les crises, à faire des propositions sur toutes les crises, à servir de médiation, à servir pour les médiations, pour nourrir des dialogues avec les uns, avec les autres. À partir du moment où nous subissons la double loi de la morale et de l'initiative militaire, nous sommes paralysés. La morale nous conduit à exclure un certain nombre de discussions avec tel et tel.
Ça, c'est bien une discussion de diplomate, c'est-à-dire qu'il faut continuer à parler.
Il faut parler avec tout le monde. Il faut choisir les modalités de la parole. Il ne faut pas forcément engager le président de la République directement à parler avec X ou Y sur la scène internationale. Mais la diplomatie, c'est de trouver le bon canal, le bon niveau, la bonne personne qui va engager un dialogue avec un responsable étranger pour essayer de voir quelles sont les marges de manœuvre, essayer de voir comment on pourrait développer la relation, comment on pourrait obtenir des gestes de part et d'autre qui permettraient de débloquer des situations. Donc c'est vraiment cette science-là. C'est la capacité que l'on a à élargir les marges de manœuvre de notre pays et à permettre à notre pays de contribuer à un effort de paix et de justice.
Vous disiez tout à l'heure, Dominique de Villepin, qu'on avait trop oublié l'existence des nations et des États et qu'on avait voulu faire semblant qu'ils n'existaient plus. Aujourd'hui, il y a pas mal de penseurs de géopolitique, mais aussi des historiens qui regardent du côté des empires. Le retour possible des empires. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, qui est une idée générale, qu'on ne peut évidemment pas appliquer à l'ensemble du monde, qui va puiser aussi bien dans la pensée de Ibn Khaldoun, par exemple, que de Clausewitz ou d'autres, cette question des empires, ou de Tocqueville, qu'est-ce qu'il faut en dire aujourd'hui, selon vous, Dominique de Villepin, au regard de l'histoire?
Je mets en avant le concept impérial. Et j'essaie de dessiner la carte du monde aujourd'hui en soulignant la présence d'au moins trois empires, les États-Unis, l'Europe, même si c'est un empire un peu défaillant aujourd'hui, et la montée en puissance de la Chine. Et chacun, pour sa part, met en place un système politique, juridique, financier, qui a pour vocation d'accroître son influence. Donc oui, nous sommes aujourd'hui devant un renouveau, un retour de ces empires. On voit bien que dans la mondialisation, plus on pèse lourd, plus on représente un nombre important d'habitants, plus on a une capacité économique et commerciale, plus on compte. Et donc chacun essaye d'élargir sa sphère d'influence autour de cet empire. Donc je crois que c'est une réalité aujourd'hui. Et s'arc-bouter sur le seul État-nation, c'est perdre la possibilité de jouer de ce levier d'Archimède d'ensemble plus large. Et je crois, comme gaulliste, que l'Europe aujourd'hui nous est indispensable dans cette capacité à peser dans le monde. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tout ce qui vient de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient est négatif. Nous avons peur de l'immigré, nous avons peur du terrorisme, nous avons peur des trafics. Nous sommes dans une inquiétude permanente de ce qui peut venir du Sud, là où nous pourrions avoir un grand projet politique entre l'Europe, l'Union européenne.
Qui ne serait pas néocolonial.
Qui ne serait pas néocolonial, parce que fondé sur un développement économique partagée, et nous serions évidemment en situation d'en tirer avantage, comme ces pays, et nous serions surtout dans la capacité à régler un certain nombre des problèmes et des peurs que nous avons vis-à-vis de ce continent.
Vous nous parlez aussi, dans une autre référence historique, des États-Unis, qui attendent, eux, leur édite Caracalla. Alors là, je voulais bien savoir ce que vous voulez dire par cette édite Caracalla. Donc, rappelons que à partir de l'édite Caracalla, eh bien, tout citoyen dans l'Empire romain, qui était membre, qui appartenait à l'Empire romain, devenait citoyen de ce même empire. Donc, il n'y avait plus de différence de statut par cette édite de Caracalla. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de l'édite Caracalla qui pourrait sauver les États-Unis? Expliquez-vous.
C'est lié à l'analyse que je fais de la contribution de Barack Obama. Souvent, on est très critique vis-à-vis de Barack Obama. Ma conviction, c'est que Barack Obama a engagé le premier, la métamorphose de la puissance américaine. Nous ne sommes plus dans le schéma de l'hyperpuissance qu'avait évoqué Hubert Védrine. Nous sommes dans un schéma d'une puissance qui doit fonctionner autrement. Et la nouvelle puissance américaine, avec Barack Obama, avait compris que c'était davantage les leviers de l'influence qu'il fallait mettre en avant, d'où le retrait promis des forces armées en d'Afghanistan ou d'Irak. Ce qu'ils ont oublié, et c'est là où l'édit de Caracalla intervient, ce qu'ils ont oublié, c'est que s'ils voulaient changer le mode de direction du monde, il fallait, qui est le fameux leading from behind, de diriger depuis l'arrière, il fallait partager les grands leviers de la puissance à travers la mise en place d'une gouvernance partagée. Et c'est ce que les Américains n'ont pas fait. Tous les leviers de la puissance aujourd'hui sont pour l'essentiel dans les mains américaines. La culture, la haute technologie, le GAFA, les sociétés d'audit, les banques d'affaires, les agences de notation, tout cela c'est dans la main des États-Unis. Et ils auraient intérêt, et en particulier vis-à-vis de la Chine, qui est en train de se doter elle-même de ses propres leviers, avec l'agence des investissements dans les infrastructures, avec WeChat, Baidu pour l'Internet. Mm-hmm. Si l'on veut éviter cette confrontation, cette division du monde, ce risque de fracture du monde entre deux ensemble, eh bien, il faut que les États-Unis acceptent de faire cette révolution culturelle qui fait qu'au-delà d'eux-mêmes, eh bien, ils acceptent de partager les choses. On le voit dans l'empire du droit qu'a constitué les États-Unis, qui nous coûte très cher et qui les amène à mettre à l'amende la BNP ou la Deutsche Bank.
Oui, avec les procédures d'arbitrage que vous critiquez.
Exactement, le privilège du dollar. Tout cela suppose cette révolution culturelle qui est à opérer.
Alors, tout de même, vous nous disiez tout à l'heure, Dominique de Villepin, qu'il fallait toujours remettre, quand on pensait histoire et politique internationale, la question de l'humiliation d'un côté et la question de la peur au centre de la discussion, au centre du débat. Si on imagine que vous avez la bonne grille de lecture, on se dit, si l'Europe est si mal, c'est parce qu'elle a peur d'un mot qui a été prononcé par les penseurs des subaltern studies, la provincialisation du monde, Dominique de Villepin. Ce sont des penseurs comme Chakrabarty ou d'autres qui disent il faut, en histoire, provincialiser l'Europe. En l'occurrence, cette provincialisation, ça serait remettre l'Europe à sa juste place. Et cette place, eh bien, on ne veut pas, tout compte fait, la regagner pour pouvoir perdre un peu de cette influence mythique que nous avons toujours eue sur l'ensemble du monde, Dominique de Villepin.
Oui, je crois que de ce point de vue, il faut accepter d'aller se confronter avec d'autres regards historiques. Et c'est là où l'histoire connectée, l'histoire à parts égales, à mon sens, a toute sa valeur et toute son utilité.
On voit que vous lisez les historiens, parce que l'histoire à parts égales, c'est le titre d'un livre de Romain Bertrand, et que dans votre livre, vous parlez des terres d'Europe qui ont bu plus de sang que les autres, et vous rappelez évidemment le travail de Timothy Snyder sur
Absolument.
Les terres de sang.
Et je crois que c'est en allant se confronter avec cette expérience historique qui est différente, que nous pourrons avoir un regard sur le monde, sans aller jusqu'à l'histoire monde, l'histoire globale, qui est évidemment un projet très ambitieux et très difficile. Et pour un diplomate, c'est le rêve que de pouvoir bénéficier d'une approche qui intégrerait tous les regards, toutes les histoires.
C'est le regard de Dieu, ça, en l'occurrence.
Absolument, mais bon, il faut essayer d'y tendre quand même. Parce que derrière cette diversité des regards, il y a de la légitimité qui est conférée à des pays, à des peuples. Il y a une reconnaissance qui est conférée à des pays et à des peuples. Et rien ne touche plus un peuple. Moi, c'est comme cela que j'ai renoué avec l'Iran. En 2003, quand je suis sorti de cette crise irakienne, meurtrie par l'intervention militaire, j'ai eu la préoccupation de me dire quel est le coup d'après que vont jouer les Américains. Et j'avais l'inquiétude de voir les Américains frapper en Iran. puisque c'était un autre un pays de l'axe du mal qui les inquiétait. Et je me suis dit, il faut que nous réunions. Nous, Européens, on a un devoir. Et donc j'ai pris bras dessus mes deux collègues, britanniques et allemands, en leur disant, on va aller à Téhéran. Et on va renouer avec Téhéran pour essayer d'obtenir un accord sur le nucléaire, un accord de suspension sur le nucléaire iranien, accord qui a finalement débouché grâce à, en grande partie à Barack Obama et aussi aux autres pays de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, en juillet 2015. Mais le parti pris, c'était d'aller voir les Iraniens et de leur dire, écoutez, vous êtes une grande civilisation, vous êtes un grand pays. Nous, nous avons une expérience historique. Aujourd'hui, si vous continuez dans cette direction, vous allez dans l'impasse.
Et alors, ça a marché?
Mais ça a marché. Puis, à l'époque, le négociateur, c'était le président actuel, le président Rouhani, il était le négociateur iranien. Mais il fallait s'adresser au peuple. Et vous ne pouvez pas aller en Iran et parler aux Iraniens sans parler culture, sans parler expérience historique, sans parler de la place de l'Empire perse et de l'expérience perse à travers l'histoire. Et c'est là où nous nous retrouvons. C'est pareil avec les Chinois. Les Chinois, vieille civilisation, ils aiment dans notre pays aussi et surtout l'expérience historique qui a été la nôtre jusqu'à la main tendue du général de Gaulle, premier pays à reconnaître diplomatiquement la Chine communiste. On ne doit jamais négliger cette importance-là. Qu'on aille en Afrique, en Amérique latine, qu'on aille en Asie, cette expérience historique, le regard de l'autre, la valorisation de ce regard de l'autre est essentielle pour le dialogue que nous avons à nouer.
Il y a un point sur lequel, quand on vous lit et quand on lit aussi des hommes politiques qui étaient au pouvoir à l'époque, où on vous sent, sinon gêné, du moins un petit peu embarrassé, on le serait à moins, c'est la question rwandaise, en l'occurrence. Vous l'abordez dans votre livre « Mémoire de paix pour temps de guerre » Dominique de Villepin, mais on sent que vous étiez au ministère de Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, on sent qu'il y a, à chaque fois qu'on évoque auprès d'hommes ou de femmes politiques qui étaient au pouvoir à l'époque, cette expérience rwandaise, ce génocide qui s'est déroulé sur des terres africaines, avec la présence, alors, la complicité, disent certains, ou la présence de soldats français sur le territoire rwandais, on sent une certaine gêne. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort en vous?
Enfin, vous avez raison de souligner cette importance-là. C'est pas de la gêne en ce qui me concerne. C'est une meurtrissure, une blessure extrêmement profonde. Vous ne vivez pas un drame comme le drame rwandais sans en sortir bouleversé et avec une envie profonde d'en tirer les leçons.
Et parmi, c'est quoi ces leçons?
Ben, parmi la douleur qui est la mienne aujourd'hui, c'est que si nous avions à revivre un drame, un génocide comme celui du Rwanda, au Burundi par exemple, nous n'avons absolument pas les outils qui nous permettraient de le faire. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, parmi les premiers en France, ont souhaité que la France s'engage pour apporter une réponse au drame rwandais. Il se trouve que nous étions en cohabitation et que les modalités ont fait l'objet d'un débat très long et nous avons dû attendre ainsi plusieurs mois pour que les modalités de cette intervention soient définies à l'époque par le gouvernement d'Edouard Balladur. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de mettre en place une force d'interposition qui permettrait d'arrêter une guerre civile. C'est extraordinairement complexe. Et l'un des objets de ce livre, au cœur de ce livre, il y a l'idée de repenser, de métamorphoser nos forces armées. Nos forces armées, elles sont formées, comme depuis la nuit des temps, à faire la guerre. Et j'estime que le premier devoir d'une force armée, j'aimerais que la France donne l'exemple.
Descendant d'une famille de militaires.
Descendant d'une famille de militaires, c'est de se mettre au service d'un objectif qui est celui de faire la paix. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'intervention militaire, mais des interventions militaires qui rendent la paix possible. On veut croire qu'en faisant la guerre immédiatement après, c'est la paix qui arrive. C'est pas vrai. Parce que les blessures, parce que les fractures au sein de la société dans laquelle on intervient sont telles que la paix n'est pas possible. Donc j'estime qu'il y a des modes opératoires, il y a des façons, des interventions aujourd'hui qui intégreraient davantage de préoccupations humanitaires, davantage de préoccupations vis-à-vis des sociétés civiles, d'autres moyens qui permettraient d'arrêter un certain nombre de conflits ou en tout cas de limiter ces conflits.
Mais quand le dirigeant qui est encore en poste aujourd'hui au Rwanda, Paul Kagame, accuse la France de complicité de génocide, qu'est-ce que vous dites? politique, en l'occurrence Dominique de Villepin, vous qui n'étiez pas au premier poste, mais étiez tout de même en poste dans cette organisation française de la diplomatie et l'organisation militaire qui s'est mise en place ensuite.
Cela ne me paraît en aucun cas conforme à la vérité historique, en tout cas la vérité historique de ce que j'ai vécu. Il y a une récurrence dans les relations entre le Rwanda et la France, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode judiciaire, il y a des accusations de ce type qui sont portées d'un côté ou de l'autre. Je le regrette. Une fois de plus, que le travail de mémoire doive être fait, qu'on puisse arriver jusqu'au bout à la vérité, mais en tout cas, ce que je peux vous dire pour avoir été au Quai d'Orsay à cette époque et avoir dirigé un certain nombre de cellules de crise, c'est que notre préoccupation pour essayer de faire en sorte que ce bain de sang n'ait pas lieu, pour essayer d'en limiter les conséquences, a été un souci de tous les instants.
Et le soutien de la présidence française, dirons-nous, à l'ancien président, celui qui est mort au début du génocide.
Mais c'est là où l'histoire est complexe. C'est qu'effectivement, la France était engagée au Rwanda depuis de nombreuses années et avait une relation avec le Rwanda depuis plusieurs années, mais engagée aussi au service de la paix, les négociations d'Arusha, l'idée qu'il fallait que le gouvernement d'Habyarimana, le président du Rwanda, puisse s'ouvrir à l'ensemble des forces de l'opposition. Et tout à coup, l'histoire a pris un autre cours. Alors, la question... Pouvait-on prévoir et jusqu'à quel point cet autre cours, c'est tout le travail qui a été fait du côté français et qui est fait évidemment du côté rwandais et du côté international. Et c'est là où les choses sont complexes. Mais imaginez qu'il y ait eu une volonté française de prendre parti avec les génocidaires, tout ça me paraît absolument pas conforme avec la vérité.
Merci Dominique de Villepin. On peut lire donc votre mémoire de paix pour temps de guerre, un essai paru chez Grasset dans lequel on trouve cette phrase qui est une sorte de d'envoi à d'autres hommes politiques français. Je refuse de parti pris de ceux qui voudraient croire qu'expliquer ou chercher à comprendre serait déjà être complice du mal. On entend peut-être derrière cela des phrases de notre Premier ministre en particulier sur essayer ou comprendre le terrorisme. Effectivement, vous tentez d'essayer et de comprendre, donc essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde dans ce livre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Voilà pour ce grand entretien avec Dominique de Villepin sur son imaginaire historique. Vous pouvez retrouver beaucoup des extraits de cet entretien sur le site internet de France Culture, également en vidéo. Cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Manuel Couturier était à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. La semaine prochaine, dans la Fabrique de l'Histoire, un tout autre sujet, nous allons vous parler de Mésopotamie, de l'histoire de la Mésopotamie.